France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous voyez pas que c'est un peu réservé à certaines élites ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Dans quelle mesure la musique, art du sonore, peut-elle être politique ? Un musicien, une musicienne, de par sa présence sur la scène publique, se doit-elle obligatoirement d'être engagée ? Le débat agite régulièrement nos conversations, peut-être même celle de notre invité, dessinateur de bande dessinée, expert de la vie politique française. Est-ce un hasard s'il a choisi le compositeur russe Sergueï Prokofiev pour démarrer ? Prokofiev qui, dans les années 30, a dû se plier en partie aux exigences du parti pour vivre de son art. Ironie du sort, Prokofiev meurt le 5 mars 1953, une heure avant Staline. Juliette, jeune fille, un extrait de Roméo et Juliette de Sergueï Prokofiev, interprété par l'orchestre de Cleveland, et Lorraine Mazel pour accueillir notre invité, le dessinateur Mathieu Sapin. Bienvenue, bonjour.
Bonjour, merci.
Ça vous fait rire?
Oui, non, en fait, je pensais à cette histoire, je ne savais pas les circonstances de la mort de Sergueï Prokofiev, et ça me faisait penser à... C'est Bob Marley qui est mort le jour de l'élection de François Mitterrand.
Ah voilà.
Et en France, et donc j'imagine que c'est pareil pour Prokofiev, du coup sa mort a dû passer complètement à l'as, parce que
Voilà, voilée dans la presse, par un grand événement, ouais. Effectivement. Tiens, vous avez un stylo et un carnet sous la main, Mathieu Sapin, sur la table du studio. Quelle ligne avez-vous tracée à l'écoute de cette musique ?
Ah, ben j'ai dessiné la vue qu'on voit depuis le studio, c'est-à-dire si je me penche un peu, je vois la Tour Eiffel, mais sinon les immeubles par cette belle matinée ensoleillée, c'est toujours agréable.
On est pas mal, hein, là, ouais. C'est vrai, pour écouter de la musique, écouter vos musiques, puisque vous avez fait la programmation de cette émission. Je vais en revenir justement, du coup, à ce que je disais en début d'émission. Un musicien, une musicienne, se doit-elle forcément d'être engagé?
Ça, j'aurais du mal à répondre à ça. Moi, je suis à la fois... J'écoute de la musique, mais je n'en pratique pas du tout. J'ai un peu une frustration de ce côté-là, mais je suis incapable de jouer d'un instrument. Et donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit on, par rapport à la création, à l'engagement, à la politique. Si on parle de Prokofiev, par exemple, oui, c'est des compositeurs qui ont dû, de toute façon, faire avec un régime. Et donc, c'est... assez fascinant de voir comment ils ont réussi à mener leur œuvre tout en étant entravés de toutes sortes. Et donc c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse.
Ce qui en résulte, ou du moins ouais. ce que ça offre comme créativité, comme liberté de création plutôt. Ouais. Comment avez-vous découvert ce ballet ?
Alors moi j'ai fait des études à Strasbourg, et qui est une ville aux mille offres culturelles, parce que je venais de la campagne. Hein. Et donc là-bas, quand j'étais étudiant, j'ai découvert le cinéma, le ballet, la musique, parce qu'il y avait une politique, enfin il y a toujours, j'imagine, une politique à destination des étudiants qui est avec un pass étudiant où on peut voir des pièces de théâtre, des opéras, des ballets pour quelques francs à l'époque. Donc j'avais vu ce ballet qui m'avait beaucoup touché, tout simplement.
Le mouvement, des corps, la musique.
Oui, et puis je sais pas, une aussi une puissance. Alors après, moi je suis un peu un enfant comme des années 80. Alors il y a des musiques qui sont beaucoup passés par la publicité. C'est terrible, hein, je sais qu'il y a plein de morceaux de classiques très très connus qui me sont entrés dans les oreilles par le biais de la pub. Moi, je regarde pas la télé, donc je sais pas si aujourd'hui il y a toujours.
Encore bel et bien utilisé, oui.
je me souviens de. Enfin, je crois que Roméo et Juliette avait été utilisé pour un. Peut-être un parfum.
Parfum ou un déodorant? Ouais. Nos auditrices, nos auditeurs, je suis sûre, vont nous le rappeler en nous envoyant un petit message pour participer à cette émission. On passe à votre choix musical suivant. Un extrait du Bourgeois Gentilhomme, Jean-Baptiste Lully, ouais. Le Concert des Nations et Jordi Savall.
C'est génial,
effectivement, je suis complètement d'accord. Il y a la publicité, il y a le cinéma aussi, évidemment.
Oui, par rapport à cette musique de cette période...
Cette marche pour la cérémonie des Turcs, bande originale, extrait de la bande originale de Tous les matins du monde que vous aviez envie d'entendre, Mathieu Sapin.
Oui, mais j'avais envie d'entendre cette musique. Alors, c'est vrai que Tous les matins du monde, c'est un film que j'ai vu tardivement, d'ailleurs, mais qui rend hommage à ces musiciens de cette période... flamboyant du grand règne de Louis XIV, et c'est vrai que c'est très entraînant et très gai aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de vibrant qui met de bonne humeur. Je m'y suis particulièrement intéressé notamment l'année dernière et l'année d'avant, où j'avais composé une bande dessinée qui s'appelle Comédie française et qui parle de politique contemporaine, mais aussi de politique et de mise en scène du pouvoir à l'époque de Louis XIV. Je me suis beaucoup documenté sur cette période, et plus particulièrement sur Jean Racine. Et Jean Racine, qui, moi je le savais pas, il est bien sûr connu pour son théâtre, mais il a aussi été historiographe de Louis XIV. Il a même arrêté le théâtre, et pendant 20 ans, était historiographe du roi. Et il avait des rapports très conflictuels avec Lully. Il détestait Lully, il détestait le principe de ce qu'allait devenir l'opéra, finalement. Parce que pour lui, le théâtre, c'était quelque chose de sacré, et la musique ne devait pas rentrer...
Interférer,
exactement. Et pour lui, en tout cas, tel que je l'ai compris, les comédies-ballets étaient une hérésie, quoi. C'était un truc...
Un appauvrissement du texte.
Ouais, un truc un peu populo, entre guillemets, et qui l'irritait au plus haut point, et qui avait en plus énormément de succès. C'était le Bourgeois Gentilhomme, c'était un énorme succès. Et donc voilà, ça m'avait particulièrement intéressé de voir comment il y avait ces rivalités entre artistes, et puis surtout ce dialogue aussi entre la musique et puis le théâtre, le spectacle parlé, quoi.
Et c'est ça qui est effectivement fascinant. Moi, j'aime aussi beaucoup ce personnage, hein, Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, italien naturalisé français. Ouais. Il a vraiment tout fait pour se rapprocher du roi, ouais. du pouvoir. Il y est parvenu.
Oui, parce que j'ai l'impression que Louis XIV jouait un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire que Racine avait aussi ses faveurs. Hein. Il est même devenu, alors qu'il venait d'un milieu très très simple, il est devenu, il a été anobli et il est devenu un courtisan. Mais de même pour Lully. Ouais. Et ces deux artistes avaient énormément de pouvoir auprès du roi. Et c'est vrai qu'on voit que aussi Louis XIV avait bon goût. C'était un tyran, hein, mais faut pas se leurrer, mais c'est un tyran qui avait du goût.
En tout cas, peut-être que ça pourra vous inspirer une prochaine bande dessinée, Mathieu Sapin. Oui. Je sais pas, ou Prokofiev, hein, qu'on écoutait en ouverture de mission. Vos bandes dessinées qui s'intéressent effectivement, je le disais, à la vie politique française. Il y a eu campagne présidentielle, vous avez suivi François Hollande. Il y a eu évidemment aussi le château dans les coulisses de l'Élysée. Et puis dernièrement, avec Johann Sfar, ce tome 2 du ministère secret. Y a-t-il d'autres compositeurs qui vous titillent, Mathieu Sapin?
Alors moi, j'ai la chance de faire une activité qu'on peut mener en écoutant de la musique, en écoutant la radio d'ailleurs. J'écoute beaucoup la radio et aussi des morceaux de musique. Et selon les humeurs, je change de registre. Hein, donc c'est très très éclectique ce que j'écoute. Je peux passer du jazz, du rock, du classique, enfin voilà. Et donc ça dépend vraiment des moments et puis de ce que je fais, sur quoi je travaille. Ce qui est amusant, c'est que je me souviens d'ailleurs quand je vois certaines pages que j'ai dessinées, je me souviens presque que de la musique que j'écoutais à ce moment-là. Ouais, parce que en fait, quand on dessine, il y a une activité comme ça, il y a une partie du cerveau qui travaille, mais il y a une autre qui est libre, je sais pas comment dire, et qui fait que on absorbe. Moi, j'aime beaucoup absorber et puis aussi restituer. Et je suis un vase communicant comme ça. Et donc un autre compositeur qui me titille, il y en a beaucoup. Après c'est des hasards aussi de cadeaux, Bach, j'aime beaucoup parce qu'on m'avait donné des disques de Bach. Mais alors c'est vaste, Bach, il y a je sais pas combien de pièces.
Il y a de quoi faire, mais vous en avez choisi une œuvre pour nous, un extrait de La Passion selon Saint Matthieu, interprété ici par Sibylla Rubens, l'orchestre du Collégium Vocal et Philippe Hervègue.
Thank you.
Un extrait de La Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Un peu de tendresse dans ce monde de brut.
Oui, c'est un peu le grand écart avec la marche du Grand Turc. Mais c'est typiquement le genre de choses que j'aime beaucoup écouter en dessinant. Parce que le temps, quand on écoute cette musique, est complètement... On est hors du temps, en fait. On peut se perdre. C'est assez agréable de se perdre. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que j'essaie de couper mon téléphone, par exemple, parce qu'on est tout le temps sollicité de tous les côtés. Et c'est difficile d'arriver à s'abstraire et puis, à se laisser porter comme ça par un, et notamment une musique comme celle-ci où on oublie la contingence, on oublie le présent, quoi.
France Musique, Saskia Deville.
Mathieu Sapin, notre invité dessinateur et puis aussi réalisateur. En 2018, vous avez sorti votre premier film, Le Poulain. Quand on parle de film, on parle de bande originale, évidemment. Comment est-ce que vous avez justement intégré ça dans le projet? Est-ce que c'est une question qui est arrivée rapidement? Est-ce que vous avez été très investi sur la question?
Oui, alors c'est Nicolas Repac, compositeur très éclectique et talentueux, qui a fait la bande originale. Et comme moi, justement, je le disais tout à l'heure, je suis pas du tout... J'ai une sensibilité musicale, mais je ne pratique pas du tout. Donc, je voulais vraiment me rassurer en faisant appel à quelqu'un qui soit d'abord un artiste complet. C'est-à-dire qu'il, lui, il compose des albums et il a vraiment une approche très un peu totale. Il fait tout seul. Et c'est un homme orchestre. Et il travaille beaucoup avec Arthur Ashe, par exemple. Et donc, j'en ai discuté très tôt avec Nicolas de ce que je voulais pour le film. Et puis, ce qui était très confortable, c'est qu'il m'a proposé des musiques qu'il a créées spécialement avant même de tourner. Et donc, des musiques qui sont dans un registre plutôt jazz, mais qui sont en vérité avec toutes sortes d'influences. C'est très mélangé. Et ces musiques m'ont aidé parce que je les avais dans l'oreille en préparant le film, en tournant. Et puis après, lui, ce qui était très pratique, c'est qu'il venait régulièrement en salle de montage. Et puis la musique s'est composée, s'est construite en même temps que le film avançait. Et ce qui fait que c'est très, pour moi, elle est très imbriquée, quoi. Elle est très très liée au film. Et c'était vraiment ce que je voulais.
On va écouter votre choix musical suivant, Mathieu Sapin. Un extrait, le tout début, les premières mesures de la symphonie inachevée de Franz Schubert. Peu de lumière après ce drame qu'on sent venir, le drame qui est de retour ici dans ce premier mouvement de la 8e de Schubert, à l'image de ce qui nous attend pour les élections présidentielles. Oui. Mathieu Sapin, que vous suivez beaucoup.
Je sais pas, mais ça m'étonnait en réécoutant ce morceau là, justement On sent qu'il y a quelque chose qui est très proche d'une rythmique qu'on pourrait trouver dans des films. D'ailleurs, ça a été beaucoup utilisé par Kubrick, hein, la musique de Schubert, et entre autres.
Absolument.
Mais il y a quelque chose de très visuel. Et alors, c'est marrant, j'avais lu il y a longtemps, dans un livre de Nietzsche, c'est La naissance de la tragédie. Il expliquait en quoi la musique est supérieure à la peinture, en ce sens que, bon, c'est un peu peut-être c'est un point de vue, hein, mais quand on voit une peinture, on n'a pas une musique qui vient aux oreilles, alors que quand on écoute une musique, on voit
des images. Ouais. Nous arrivent à profusion.
Et ça m'avait plutôt parlé. J'avais
c'est
trouvé
vrai.
Ça pas mal. J'ai trouvé ça bien vu de la part de Nietzsche.
Je dis ça parce que Le Ministère Secret, votre bande dessinée que vous réalisez en compagnie de Johannes Farr, a vu le jour en version élection présidentielle depuis quelques jours. C'est
assis
sur le site de Libé.
Oui.
Tous les jours, l'actualité de la vie politique et de nos élections à venir, évidemment. Sorti également il y a quelques semaines, on en avait parlé ici dans cette émission avec Johannes Farr, du tome 2 du Ministère Secret chez Dupuis. Et puis un film à venir aussi, Jean-Pierre Pozzi, La Disparition, un film dont vous êtes le protagoniste qui sortira le 9 février.
Oui, la bande-annonce est visible depuis quelques jours. Mais oui, c'est un film documentaire auquel j'ai participé en tant que protagoniste principal, puisque c'est une enquête. On me suit dans ma peau de dessinateur enquêteur. Et donc l'enquête porte sur la disparition d'une certaine gauche, on peut le dire, qui aujourd'hui est quand même assez mise à mal quand on voit l'élection qui est en train de se mener. Et donc on a tourné il y a un an en essayant de comprendre quels étaient les mécanismes qui font que la gauche est dans l'état où elle est aujourd'hui. On part des années Mitterrand, hein, et jusqu'à aujourd'hui, on essaie de faire un espèce de portrait de la gauche et du Parti Socialiste depuis 40 ans.
La disparition donc de Jean-Pierre Pozzi à voir à partir du 9 février. Y a-t-il un lien avec le choix musical avec lequel nous allons refermer cette émission ? Tchaïkovski, la symphonie, la pathétique, le final que vous avez choisi pour nous.
Alors,
Tchaïkovski qui a, en la composant mentalement, beaucoup pleuré. Il nous l'écrit.
Je ne sais pas s'il y a un lien.
On va laisser les imaginaires se délier. Valérie Guerguef à la direction. L'Orchestre du Théâtre Mariinsky ici pour ce final. Merci beaucoup Mathieu Sapin. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Et merci à toute l'équipe. Eric Lancien, Pauline Boiseaubert, Xavier Lévesque. À très bientôt.
Avec plaisir.
Et chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.